Bonjour Adicias, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Traversée spéciale pour aujourd'hui entre 16h et 17h, puisque nous accueillons dans nos studios Cédric Héroux, mais nous allons en parler tout de suite. Tout d'abord, je remercie la bande là qui est derrière, pas derrière la vitre, mais dans le studio, mais sans eux, il n'y a pas d'émission. Dorian Gillemant et Valentin Sirugue qui assurent la réalisation technique et je les remercie parce que sans réalisation, pas d'émission. Au micro, Christian Moreto, mais pas que, puisque je retrouve avec plaisir un autre de la bande, Jacques Lavergne, Jean-François Mignard, secrétaire général de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour, cher maître.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Donc, l'indicatif est signé de Damien Moreto. Et nous recevons donc Cédric Héroux. Tu étais là hier soir chez nos amis de l'American Cosmographe, en partenariat d'ailleurs avec le réseau des étudiants toulousains en soutien aux exilés et réfugiés et le cercle des voisins du centre de rétention administrative de Cornebarieux. Et donc, tu es avant tout un citoyen, un paysan, un vrai, pas un exploitant agricole ou un agri-manager comme la plupart des dirigeants de la FNSEA, sauf erreur de ma part.
Non, ça va, je suis un petit paysan,
en toute modestie. Donc pas FNSEA.
Donc pas FNSEA. Et donc, avec pas des revenus extraordinaires, hein, si j'ai bien compris, dans le documentaire Libre qui est signé de Michel Toesca et qui a été diffusé d'ailleurs au Festival de Cannes. Donc ça, c'est très bien. Et hier soir, chez nos amis de l'American Cosmographe, c'était complet.
Ben oui. Ouais, et Tournefeuille aussi, c'est complet.
Donc, pour ce soir, ouais. À l'Utopia, mais tant mieux. Écoute, et visiblement, de ce que j'ai cru comprendre sur le plateau de nos confrères de France 3 Sud, tu étais agréablement surpris par le militantisme qu'il y avait dans la région toulousaine et en Occitanie. L'Occitanie, c'est quand même une terre de résistance.
Ben ouais, ça fait plaisir, ouais. Résister, c'est vivre, quoi. Donc les gens sont vivants, ça fait plaisir. Ouais.
Oui, c'est une vieille histoire. C'est à Toulouse particulièrement, les réfugiés, on connaît. Ils ont marqué notre histoire depuis longtemps. Les dernières vagues de réfugiés politiques, pour le coup, ont quand même modelé une partie de la ville et ils se sont inscrits un peu dans l'âme. Dans les capacités de résistance, c'est une très vieille histoire toulousaine et de la terre occitane. Hein.
Ben, je fais partie, on va dire, d'un descendant de réfugiés italiens qui avait été chassé par la dictature de Mussolini, par exemple.
Ben, autour de nous, dès qu'on cherche un petit peu, effectivement, on est autant de feuilles que de souches.
Alors, Cédric Héroux, donc toi tu es basé du côté de Nice où visiblement on va dire que les institutions sont un petit peu plus rudes peut-être que chez nous, pas gentilles du tout, quand on te condamne notamment pour délit de solidarité. Je ne comprends pas tout là. Il y a quelque chose qui a dérapé chez nous, dans notre pays comme ailleurs ?
Ben ouais, je crois, puis on est habitué au dérapage, je crois. Tout est cyclique, j'ai l'impression. On revient toujours au point zéro, telle une horloge, quoi, et sans prendre en considération notre passé. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on s'habitue petit à petit à cette réalité-là, où on part dans le racisme, où on entend des élus comme Ciotti préconiser de renvoyer les migrants en Libye, donc comme Libye, hein, où il y a quand même des camps de concentration, il y a de la torture, il y a du viol, il y a de l'esclavage. Et qu'un élu qui est censé représenter la République et qui est censé représenter le peuple, parce qu'il est élu, quoi, il est député, hein, c'est une personne quand même qui est là pour voter des lois, pour construire des lois, et qu'une personne en fait préconise en fait de mettre les gens à la mort. Je crois qu'il n'est pas digne de représenter la République française. C'est des mecs qu'il faut dégager de suite, quoi.
Oui. Le préfet des Alpes-Maritimes, par ailleurs, est quand même quelqu'un qui se distingue particulièrement de ce point de vue. Et dont on peut penser d'ailleurs qu'on pourrait lui décerner un prix qu'on avait décerné ici il y a quelques années à Toulouse, qu'on avait appelé le prix Papon, hein, qui était un prix qu'on...
Toi, tu vas avoir des problèmes, je crois.
Alors, j'ai manqué à avoir des problèmes, puisque les gens à qui ce prix a été décerné ont menacé de nous faire des procès et qu'on attend toujours, parce qu'on les attend y compris avec impatience, c'est l'occasion à chaque fois de débattre effectivement de ces questions-là. Le pire qui puisse arriver à des politiques qui sont des politiques honteuses, c'est de les mettre à jour, et je crois que c'est un travail de tous les jours.
Ouais. Mais après, il ne faut pas oublier aussi qu'un préfet, il travaille...
C'est un préfet.
Il a des ordres, il a des directives, c'est des directives d'État, donc c'est Colomb qui donne des directives directement à notre préfet. Le préfet des Alpes-Maritimes s'est fait condamner à maintes reprises pour entrave grave à la demande d'asile, pour avoir reconduit en Italie des mineurs isolés, ce qui est illégal. Il continue ses actions, en fait, maintenant, pour se cacher de retourner des gamins en Italie. Il change, en fait, les dates des il transforme les mineurs en majeurs directement comme ça. Donc, il y a des faux en écriture publique, des faux et usage de faux en écriture publique de la part de représentants de l'État. Enfin, ce qui se passe dans les Alpes-Maritimes, c'est très grave. Il faut savoir que les Alpes-Maritimes, en fait, il y a la République française et puis la République de la Côte d'Azur. En fait, c'est deux publics bien différentes où il y a une tradition depuis médecin, quoi, qui avec une politique clientéliste, avec une espèce de politique mafieuse, de copains, de gens qui se rendent service, de placer l'un ici, l'autre là, et puis et on vit ça, nous, sur la Côte d'Azur depuis longtemps, quoi. Et ce qui est bien pour nous dans la lutte, en fait, au sujet des migrants, c'est que là, c'est fait du bien, quoi. Enfin, pour les militants de Nice, etc., ça fait du bien. C'est que enfin on gagne un peu, enfin on nous écoute, et c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Hein. Mais enfin, toi, ça, on arrive à lutter et à continuer la lutte, quoi.
Alors, à l'origine, tu es citoyen, paysan, et puis tu as vu passer ou débarquer des réfugiés, et tu t'es pas dit, non, là, je leur demande leurs papiers, et s'ils en ont pas, je les refoule. Comment ça s'est passé au départ? Parce que tu as peut-être été surpris aussi. Et puis, il a fallu s'organiser, parce qu'accueillir des dizaines et des dizaines de personnes comme ça, qui ont fui une dictature, ou qui peuvent aussi être des réfugiés climatiques, et il y en aura de plus en plus. Comment ça s'est passé les toutes premières fois?
Bah, tu vois, il y a 2-3 ans de ça, je ne savais pas ce que c'était que l'Érythrée. Je me suis dit, bon. Et je ne savais pas du tout que c'était un pays où il était, je ne savais pas du tout cette dictature, etc. C'est que moi, au départ, je n'ai pas aidé des gens en situation irrégulière, je n'ai pas aidé des réfugiés, je n'ai pas aidé des ce qu'on comprend, c'est que moi, étant gamin, j'ai habité dans une cité qui s'appelle l'Ariane, c'était de Nice, où j'étais à l'école avec des Noirs, des Arabes, des Asiatiques. J'ai appris à ne plus faire la différence. Et moi, à Vintimille, j'ai aidé des gens en galère, quoi. Après, leur situation administrative, maintenant, j'en prends conscience, etc., parce que j'ai une lutte qui est juridique, mais au début, on n'est rien, quoi. Personne en situation irrégulière, ça veut dire quoi? C'est super compliqué, quoi, de savoir. Est-ce qu'un gamin est en situation irrégulière ou pas? Est-ce que la proportionnalité aussi, hein, est-ce qu'on doit ne pas assister des personnes en danger sous prétexte qu'ils sont en situation irrégulière? Qu'est-ce qui est le plus grave, de non pas assister une personne en danger ou de délaisser un mineur isolé? C'est l'obligation, en termes de loi, de protéger un mineur en danger. Donc, qu'est-ce qui prévaut, en fait? Et à un moment, on demande aux gens de devenir experts en juriste quand on voit un noir au bord de la route, en fait. C'est ça la question, quoi. Et est-ce que c'est notre rôle de demander les papiers ou pas? En plus, c'est même pas une question de pro-migrants, anti-migrants, ou c'est même pas une question d'analyse politique de la situation migratoire mondiale, etc., machin. C'est juste, il y a un moment où l'État ne peut pas demander aux gens de fermer les yeux et de se taire sous prétexte que eux, ils sont en train de faire des manœuvres douteuses à la frontière, quoi. Il y a un moment, ils ont foutu le bordel dans la vallée de la Roya. La vallée de la Roya, son point de vue social, ça va bien. Donc, du coup, ça a réagi. Et on a réagi en faveur des migrants. Et puis, il y a un moment où ils veulent plus qu'on agisse. Mais il y a un moment, ils sont gentils, quoi. Mais nous, on était un peu tranquille avant qu'ils fassent tout ce bordel. Je rappelle qu'ils ont fermé des frontières à l'intérieur de l'espace Schengen, ce qui est interdit, en fait. Ce qui est interdit de fermer des frontières et de faire du contrôle uniquement de flux migratoires. Et sous prétexte de lutte antiterroriste, etc., ils ont fermé les frontières pour avoir le droit, en fait, de bloquer, quoi. Nous, dans la vallée de la Roya, on se retrouve avec 500 flics. J'ai rien contre les flics, hein, c'est pas ça, mais quand il y en a trop, je dirais, au moins, c'est bon, quoi. Il y a 500 flics pour 4000 habitants, quoi. Il y a plus de place dans les hôtels pour les touristes. Autour de la maison, j'ai 40 gendarmes mobiles qui sont là. Mais les mecs, ils sont super mal à l'aise. C'est des jeunes, ils ont 20, 25 ans. Ils ont l'âge des jeunes qu'ils arrêtent.
Ils font le sale boulot, ouais.
Ils font le sale boulot, quoi. Après, il y a des cons partout. Ouais. Mais il y a des gens bien partout aussi, quoi. Et les gars qui sont en bas de la maison, qui surveillent, qui nous demandent les contrôles d'identité, qui font les contrôles d'identité, ils sont mal à l'aise. Parce que leur métier, c'est pas ça, quoi. Et faire du contrôle au faciès, c'est des directives qu'ils ont, et ils ont pas signé pour ça, quoi. Mmh. Et c'est pour ça qu'en fait, on a un système d'État qui met tout le monde à défaut, qui met une société à défaut, qui met notre avenir à défaut, qui met une profession qui est la police à défaut, et qui met toute une vallée à défaut, et une nation, et puis même l'Europe. Quoi.
Ouais, ouais,
est-ce qu'on voit ce qui se passe en Europe en ce moment ? Enfin, je veux dire,
je pense que c'est important de dire que ce type de politique-là salit tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas une politique qui porte atteinte uniquement, de façon épouvantable, c'est évident, hein, aux droits d'un certain nombre de personnes. Mais petit à petit, c'est une gangrène qui touche tout et qui, par exemple, peut amener des citoyens à prendre des positions qui sont des positions qui sont extrêmement douteuses au niveau des principes. Quoi. Hein, c'est-à-dire que on regarde à côté, on passe à côté et on voit pas et on n'intervient pas. C'est contraire à des principes qui sont, alors on va pas utiliser les grands mots, mais quand même, qui sont des principes républicains sur la fraternité. Hein, c'est le sens du débat qu'il y a eu au Conseil constitutionnel hier, qui est de dire c'est ce que tu dis aussi quand tu dis porter secours à quelqu'un au nom du principe de fraternité et de porter secours à quelqu'un qui est en danger, c'est contradictoire avec le CESEDA, c'est-à-dire des textes sur l'accueil des demandeurs d'asile ou des étrangers. Et la politique qui est menée est une politique qui porte atteinte, effectivement, pas uniquement aux gens qu'elle vise, mais aux gens qui sont déjà autour. On sait historiquement que la manière dont on traite les étrangers, c'est quelque chose qui est, qui est prémonitoire de la façon dont on traite les autres. On commence par les étrangers, on commence par les plus faibles. On l'a vu dans l'histoire, cette affaire-là. Et puis, petit à petit, par cercle concentrique, ça touche tout le monde. C'est pour ça que la lutte qui est menée là-bas est une lutte qui n'est pas fragmentaire, qui n'est pas uniquement sur... qui ne concerne pas que la question des migrations, mais qui concerne l'ensemble des valeurs et puis des positions des gens, voilà.
Ben, quand on se bat pour les autres, on se bat pour soi. Hein. Je dis honnêtement, moi, si je continue, c'est juste parce que la veille de la Roya, elle m'appartient, je lui appartiens, je travaille avec elle, je suis paysan, mais de où il y a un gars à Paris qui va décider de comment on doit gérer notre hospitalité dans la veille de la Roya. Je veux dire, il y a un moment où il fait ce qu'il veut à Paris, non, on peut, il y a un moment, il y a le respect en fait, du territoire. Et Sarkozy avait parlé de l'identité nationale au singulier. Il n'y a pas d'identité, il n'y a pas une identité nationale, il y a des identités qui font la nation. Moi, je me sens beaucoup plus à l'étranger, au Pays Basque, ou ici chez vous, ou machin, qu'à Vintimille. Et là, on me poursuit parce que je suis allé dans un pays étranger à Vintimille chercher des gens. Mais Vintimille, moi, ça fait partie de la Vallée de la Roya, j'habite la Vallée de la Roya. Donc, à un moment, notre identité est là-dedans. Et à un moment, ils prennent... une vallée en otage, parce que mettre 500 flics et militaires avec des FAMAS dans une vallée, 510% de plus de la population armée dans une vallée, en train de courir après des jeunes, et vraiment, c'est une prise d'otage qui est une prise d'otage de notre liberté, de mouvement, et notre liberté d'être fraternel et de respecter la devise nationale, qui, je le répète, c'est liberté, égalité, fraternité. Quoi. Et enfin, voilà, c'est un peu ce qui se passe là-bas, ça commence à me fatiguer en fait.
Alors au départ, tu étais peut-être seul, mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui t'ont rejoint aussi, qui te soutiennent et qui t'aident parce que sinon, finalement, tu consacres beaucoup, beaucoup de temps aux réfugiés. Du coup, tu as même pas le temps de t'occuper de tes propres cultures qui te permettent, en tous les cas, de gagner quelque argent pour pouvoir vivre.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la maison, c'est autogéré. C'est-à-dire que c'est des personnes qui étaient en migration, qui se sont posées dans la Roya et qui font les démarches administratives pour faire une demande d'asile. Donc, il y a 10 personnes qui sont à la maison et c'est pas moi qui le gère, le camp, c'est eux. Donc, ils gèrent à bouffer, ils gèrent les stocks, etc. Les tentes, changer les draps, les couvertures, les laver, etc. Et c'est eux qui font tout ça, quoi. Moi, je m'occupe de tout ce qui est médiatique et action politique, etc. Et eux, ils s'occupent de la gestion du camp à la maison, quoi. Après, c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps sur mon travail, pas mal d'argent quand même. Mais ma vie, c'est pas mon métier, quoi. Et j'ai pas de métier, quoi. J'ai un mode de vie. Et surtout, ce qui me permet de lutter, tout à l'heure, on parlait de Confédération Paysanne, FDSE, ouais, c'est FNSE, c'est que j'ai un mode de vie, en fait, qui me permet de lutter. C'est-à-dire que je n'ai pas de crédit, j'ai pas de subvention, donc j'ai une autonomie financière. Et surtout, j'ai pas de clients, c'est des partenaires avec qui je travaille. Donc, avec tous les problèmes juridiques que j'ai, les magasins continuent à m'acheter, mes clients continuent à me soutenir. Et donc, ça, on travaille ensemble, quoi. Il y a un système, en fait, de vie qui me permet, en fait, de lutter, quoi. Et c'est ce qui dérange beaucoup dans notre système d'État. On voit à Notre-Dame-des-Landes, s'il y a eu une action de l'État de casser, en fait, les dynamiques pérennes, c'est que ça dérange, quoi. Parce que l'alternative donne la possibilité de lutter.
Oui, Notre-Dame-des-Landes, effectivement, c'est un bon exemple, dans le sens où le gouvernement n'a accepté que les projets individuels et pas les projets portés par un collectif. Donc ça veut dire que, quelque part, nos dirigeants ont peur du collectif.
Les dirigeants ont peur du collectif. La loi ne connaît pas le collectif. C'est une autre question, mais ça vient interpeller effectivement les principes fondamentaux, hein, de la propriété privée qui n'est conçue, le droit à la propriété, comme quelque chose d'individuel. Et donc toute alternative à cette chose-là est dangereuse. Hein, on l'a connu effectivement dans Notre-Dame-des-Landes, mais plus près de nous, on a connu Sivens. Hein, oui. Voilà, en tant que Ligue des droits de l'homme, on est allé rencontrer les gens après la mort de Rémi Fraisse, on a débattu, on a bien vu qu'au-delà du cas individuel épouvantable de quelqu'un qui est tué, c'est bien, à un moment donné, quelque chose qui est repéré comme étant dangereux, qui fait qu'à un moment donné, l'État met le paquet. Il met le paquet pour... Comme il met le paquet là, c'est la théorie de la saturation de l'espace, hein, où on intervient massivement. Quand tu dis la Vallée de la Roya, elle est saturée de présence policière, hein, parce que c'est insupportable au sens... Ça ne peut pas être supporté parce que c'est trop dangereux par rapport aux équilibres, à l'organisation telle qu'elle est en place. Quoi.
Organisation financière... mafieuse presque, on pourrait dire, en tous les cas, un pouvoir qui ne se partage pas et dont chaque fois qu'il y a des initiatives, et ici dans les émissions traversées et ici de même par ailleurs, justement, il y a des porteuses et des porteurs de sens, et ces personnes-là, elles font peur. Et pourtant c'est peut-être parce qu'effectivement, sont porteurs d'une autre forme de société, de partage, de convivialité, et que ça, on n'en veut pas. Et comme je le dis dans un certain nombre de mes émissions, moi, je suis pour la coopération contre la compétition. Dans une compétition, il y a quelques gagnants, il y a beaucoup de perdants. Et c'est sans doute ce qu'ils veulent, et ce que notre cher président Macron veut quand il parle du premier de cordée.
Oui, oui. Le paradoxe, c'est que Cédric Herrou est soupçonné d'être complice des mafias qui sont des passeurs. Oui, c'est-à-dire que c'est ça qui est impressionnant, et où on renverse l'argumentaire, en gros, et on dit aux citoyennes et aux citoyens, voilà, vous êtes pas plus tard que l'intervention du président de la République qui dit je vais en prendre. Hein, je vais me prendre du dernier bateau en date qui fait scandale, mais je tiens à stigmatiser l'ONG allemande qui a affrété le bateau, parce que ce sont des complices des passeurs ou des complices des mafieux. Et c'est au titre d'ailleurs de l'aide au séjour irrégulier sur le territoire français, et donc de la complicité supposée que peuvent avoir les gens qui aident les migrants, avec tout le réseau qui est le réseau des passeurs. Autrement dit, il y a un renversement de l'argumentaire où on dit aux gens, soit vous êtes les idiots utiles, les imbéciles, hein, les benets, les naïfs, soit vous êtes les pervers qui hein, mais alors que nous, on lave blanc, vous êtes en train de laver un petit peu sale. C'est l'ironie de l'argumentaire.
Ouais, mais après, quand tu regardes comment ça marche vraiment, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des passeurs qui font passer des gens entre la France et l'Italie. Mais est-ce qu'ils font passer une frontière ou est-ce qu'ils détournent les contrôles policiers? On paye pour quoi? On ne paye pas pour passer d'un endroit à un autre, on paye pour contourner un endroit. Et les complices directs et indirects des passeurs, c'est Colomb. C'est Colomb qui fabrique les passeurs. Parce que sixième procès, bim. Non, en fait, c'est en mettant un dispositif de fermeture de frontières, en faisant entrave à la demande d'asile, parce qu'une demande d'asile, ça peut être fait à 26 milles à la frontière. Bonjour, je m'appelle un tel, je voudrais faire une demande d'asile, ah, allez-y, passez. Il n'y a pas besoin d'aller dans la ferme Cédric Herrou pour faire une demande d'asile, quoi, à la frontière. Et en fait, avec cette entrave-là, ça crée un réseau de passeurs. Et quand on sait que l'Europe, la France, l'Italie payent, ils appellent ça les gardes-côtes libyens, mais ils se foutent un peu de notre gueule ou quoi. Depuis qu'ils ont buté Kadhafi, c'est des mafias qui sont au pouvoir et qui se tirent la bourre pour les passages de frontières. Et les gardes-côtes, c'est pas des gardes-côtes. Les gardes-côtes, c'est des passeurs. C'est des passeurs qui sont organisés, qui sont plus riches que d'autres. Et ça, ça m'a été avéré par toutes les personnes, les 2500 personnes qui sont passées à la maison et qui m'ont dit que le commandant des gardes-côtes, c'était lui le big boss des passeurs. Et ça m'a été confirmé par un policier que je connais très bien parce que j'ai fait beaucoup de gardes à vue. Et que c'est, voilà.
Ça devient une
qui est allé en Italie du Sud et qui m'a confirmé en fait que c'était bien... ce qu'on appelle les gardes-côtes qui avaient des réseaux de passeurs. Oui. Et là, l'Europe est en train de financer les gardes-côtes. En fait, c'est une corruption. C'est qu'il y a une menace, c'est que ce qu'ils appellent les gardes-côtes, ils sont en train de dire bon, filmez un peu d'oseille, on t'en met moins. C'est sûr, ils en mettent moins. Et là, ils sont en train de s'étonner. L'Europe se dit oui, vous voyez, ils sont en train de se renforcer, ils ont des bateaux beaucoup plus gros qu'avant, etc. Et c'est vrai. Et parce que c'est l'Europe qui les finance.
Bien sûr, mais d'ailleurs, dans la perspective de négociation qu'il y aurait entre l'Europe, les pays européens, et par exemple la Libye, pour la fameuse gestion du flux qui flux sur la Méditerranée, tous les gens, enfin nous on a discuté avec des gens qui sont dans le cadre de la diplomatie internationale, disent c'est tout ça est une pétition de principe et des paroles à l'air, parce que avec qui on négocie la Libye aujourd'hui? Qui représente le gouvernement libyen, qui n'est pas le représentant d'un élément dans un rapport de force à l'intérieur du pays, qui sont entre les tribus, les clans ou des choses comme ça. Autrement dit, on retrouve aussi cette dimension-là qui va faire qu'à terme, on peut quand même se poser la question de savoir si effectivement on négocie avec la Libye le contrôle qui est le contrôle de la sortie de l'Afrique. Avec qui on va négocier? On n'est pas du tout sûr qu'on négocie avec des gens qui sont représentatifs de l'État libyen.
Et puis il y a une chose, peut-être, je te laisse la parole, Cédric, dire, c'est que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on quitte forcément un pays, un territoire. C'est les éléments, les événements qui font que. Enfin, je suppose que Cédric, les réfugiés que tu as accueillis, ils n'ont pas dit « c'est merveilleux, on avait envie de quitter le pays parce que bon,
pour ça ne plaisait familiale. Pas
ouais, ».
On vient voler la place des SDF français, ça a l'air sympa, leur carton, tout ça.
Voilà, ouais, c'est super.
Non mais voilà, c'est qu'à un moment, il y a une réalité. Quoi. Il y a une réalité qui est mondiale. La majorité de la migration africaine, 96% de la migration africaine, est gérée par des pays africains et des pays en voie de développement. La France est la cinquième puissance mondiale. On est là, oulala, on est envahi et tout. Il faut arrêter de déconner, on n'est pas envahi du tout. Et il y a quand même très peu de personnes qui sont venues. On a connu une migration bien plus forte que celle-ci. Après, il y a une problématique qui est mondiale. Il y a un problème géopolitique qui est une réalité. Et c'est comme ça, quoi. Et il y a un moment qu'on soit pour ou contre la migration, qu'on soit pour ou contre, qu'on aime ou pas les Noirs, qu'on aime. Après, je rappelle que le racisme est interdit, mais on a le droit de l'être. Mais on n'a pas le droit de l'exprimer, on est dans un espace public, etc.
On a le droit de le penser.
Voilà, on a le droit de le penser. Mais qu'est-ce qu'on veut, en fait? C'est qu'il y a un moment, est-ce qu'on ne veut pas tous, qu'on soit de droite ou de gauche, que la migration se passe bien? Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on là, on a des gens de droite qui sont « oui, on est contre la migration, etc. » machin, nanana, il faut tout. Et puis, il y a un moment où fermer les frontières, ça ne marche pas. Ils jouent aux imbéciles, mais ils le savent très bien. Comme exemple concret, on va regarder ma ferme. Donc, ils essaient, il y a 10 fois plus de flics qui sont autour de ma ferme que sur l'axe autoroutier qui fait 26 000 Nice. Et c'est une réalité. Et j'ai 50 gendarmes autour de chez moi, une ferme qui fait 2 hectares. Il y a 50 personnes qui arrivent à passer par semaine. Donc, clairement, ils n'arrivent pas à fermer 2 hectares. Comment tu veux qu'ils ferment une Europe? Comment tu veux qu'ils ferment un? À un moment, ce n'est pas possible, qu'on le veuille ou non. Il y a une réalité. Il y a une réalité, c'est que les échelles sont beaucoup plus faciles à faire que les murs. Et c'est une réalité, on peut faire ce qu'on veut. C'est des gens qui ont traversé le désert, qui ont traversé la Libye, qui ont traversé la Méditerranée. Tu crois que nous, là, on va dire attention, il ne faut pas te passer cette ligne. Ils vont dire ah bon, d'accord, c'est interdit de passer, on ne va pas passer. Et au moins, il y a une réalité, quoi. Il y a une réalité et une nécessité vitale pour ces personnes-là de fuir leur pays, quoi. Et de quitter sa famille, de quitter ses amis, de quitter, de se réadapter à des nouveaux codes sociaux. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué, quoi. Donc, pour pas qu'on soit en échec, je pense qu'on doit tous œuvrer ensemble, droite, gauche, etc., avec nos différences, avec nos analyses différentes. Mais pour que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on dise, ce défi qui est la migration, on l'a relevé et ça a été bon. Et on a gagné.
On est en train de payer des années de cécité volontaire sur cette question-là. Bon, moi, je fais partie des gens qui, depuis des années, mais je ne suis pas le seul, on est nombreux dans ce cas-là, qui avons, souvent je dis, passé des soirées douloureuses devant la préfecture parce qu'on n'était pas très nombreux et tout. Et quand on rencontrait les politiques, on leur disait, mais... Vous mettez la main devant les yeux parce que le problème est devant nous. C'est un problème qui est et on le voit. C'est un problème. Enfin, c'est un problème. C'est pas le problème des réfugiés. C'est le problème de l'accueil des réfugiés d'abord. Et puis parce qu'il est en train de faire éclater un certain nombre de règles du jeu qui nous régissent, y compris le droit international. Ça a été dit tout à l'heure. On a un droit international qui date de la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, qui trie entre les réfugiés politique, même parce qu'on sortait quand même d'un truc dans lequel on avait vu ce que ça donnait, et puis des autres. Voilà. Aujourd'hui, c'est les choses sont beaucoup plus complexes. Je pense qu'il y a des gens qui sont autant réfugiés politiques que réfugiés économiques. C'est la même chose. En attendant les réfugiés climatiques, dont on fera peut-être partie d'ailleurs. Hein, je veux dire, ça c'est parce que moi souvent aussi je dis attendez, vous savez. Nous, on est peinards, là, pour le moment, mais rien ne dit que... Voilà, hein. Et là, il y a eu des années... Alors, je me dis de manque de courage politique, hein, c'est-à-dire de dire, voilà, ce truc-là, il va falloir être pédagogue avec... Parce que c'est vrai que les gens, quand ils ont la trouille, ils ne sont pas sympas, et on sait aussi dans l'histoire ce que ça donne. Voilà, hein. Et là, il y a une espèce de course contre la montre, on a l'impression, entre la capacité qu'on peut avoir à se mobiliser, que la société civile... puissent se mobiliser, et puis effectivement des décideurs qui sont... et puis une course contre la montre dans la société civile, hein, parce que l'an prochain, 2019, c'est les européennes. Un des débats concernant la question de l'Europe, il va être là-dessus. Hein, il va être sur cette question-là. Comment on y gère cette question-là, voilà. Et il y a vraiment une mobilisation. Il y a un enjeu très très fort politiquement du côté de la société civile. C'est un concept mou, mais autrement dit, tout ce qui n'est pas forcément des décideurs, pour ne pas basculer dans quelque chose d'absolument terrible.
Alors, Cédric aussi, comment s'est faite au départ la rencontre, alors peut-être que tu le connaissais de longue date, avec Michel Touesca, le réalisateur du documentaire Libre, donc, qui faisait partie de la sélection officielle hors compétition du Festival de Cannes.
Michel habite à Saorge. Saorge, c'est un village qui est juste au-dessus de Breuil-sur-Royen. Et on habite dans la même vallée, mais on se connaît depuis, je ne sais pas, au moins 10 ans, 15 ans, quoi. On se connaît, et puis... Donc Michel a commencé même de filmer avant que j'agisse en faveur des personnes en migration. Et puis, un jour, je l'ai appelé, je sais que tu es en train de filmer, etc. Si tu veux, passe à la maison, je fais de l'accueil aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, tout le monde avait peur de faire de l'accueil. On ne savait pas si on avait le droit d'héberger, on ne savait pas si... On ne savait rien, en fait. On ne savait pas du tout, donc on faisait tout ça un peu en cachette. Et on était persuadé qu'héberger était interdit. Et j'étais complètement ignare dans la matière, quoi. Et donc, du coup, Michel nous a accompagnés. Et dans cette compréhension, en fait, du côté juridique, etc., dans l'amélioration de l'accueil, au départ, c'était... Moi, j'ai une petite baraque, ça fait 30 mètres carrés, quoi. Hein, c'est une baraque en ossature bois, en paille. Enfin, c'est... Et petit à petit, on a fait une grosse cuisine avec mon frère. On a fait des bâtiments en bois. On a monté des caravanes en hélico. Petit à petit, on a commencé à organiser tout ça, quoi. Et Michel, un peu, c'est un peu la caméra embarquée de cette expérience, quoi. Et ce qui est bien dans ce film-là, c'est qu'il a réussi à ce que sa caméra ne se voit pas, en fait. Et elle fait partie intégrante de nos outils, en fait. Et ce film, pour Michel Touesca, c'est une œuvre artistique, parce que c'est un film de cinéma, machin. Pour moi, c'est un outil, quoi. C'est un outil de communication. C'est un outil qui aide. J'espère, la prétention qui apportera à ce que les gens aient envie, en fait, de fédérer à cette lutte-là. Et c'est même pas que la lutte des migrants, en fait. C'est la lutte de la fraternité, de revenir un peu à l'essentiel.
Aux fondamentaux.
Voilà, aux fondamentaux.
Alors, je vous propose, parce que tu es venu aussi avec un confrère, un jeune confrère de Radio Occitania, que nous connaissons bien avec Jean-François Mignard, mais c'est pas un hasard si j'ai programmé, bien sûr, cette chanson. HK et les Saltimbanques, ça s'appelle « Sans haine, sans armes et sans violence », parce que visiblement, tu n'es pas un violent, et pourtant, il y a de la violence. À tout de suite.
Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place, ces casques lourds qui nous font face. Nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée, notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans aucune condition de ressources, ils voudraient que l'on parte au pas de course, acheter des biens de grande consommation au premier tir de sommation. Que nous leur portions cette marchandise, objet de toute leur convoitise, leur précieux, leur cœur de cible, du temps de cerveau disponible. Oh qu'ils chérissent tant ce cœur de cible, ce temps de cerveau disponible. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. De la sainte finance, toxicomanes accro à la croissance. Nous sommes de ceux qui vous désobéissent, la plèbe blasphématrice. Jetez-nous l'opprobre, jetez-nous la pierre. Vos grenades suffiraient-elles à nous faire taire? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes. Thank you.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission spéciale Traversée sur Esprit Occitanie. Vous retrouverez le podcast sur www.espritoccitanie.fr. Nous sommes en compagnie de Cédric Héroux. Donc tu es venu aussi accompagné d'un jeune reporter qui travaille chez nos amis de Radio Occitania que nous connaissons bien, donc avec Jean-François Mignat. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, ou tu avais envie de poser en tous les cas des questions à notre ami Cédric Héroux?
Oui, je dis bonjour, je me nomme Fantao Sidibé, et je suis jeune mineur isolé de la France, précisément à Toulouse, et j'adore le journalisme, et je suis bénévole à Radio Occitanie. Et je m'irais poser aussi quelques questions à Cédric. Pour commencer, Monsieur Cédric, si par contre la police t'arrête, est-ce que tu as d'autres citoyens, est-ce que tu as d'autres citoyens qui te soutiennent?
Oui, quand même. En général, c'est un peu notre fonds de commerce, en fait, parce qu'on a une association où on a besoin d'argent pour faire à manger, pour payer les avocats, tout ça. Et quand je suis en garde à vue, on fait des sous, quoi. Donc c'est plutôt positif. Ouais, c'est un peu une blague quand même. Donc oui, il y a des gens qui me soutiennent chaque fois que je suis enfermé. C'est ce qui aide vraiment à tenir bien et fort quand je me fais arrêter.
Et j'ai une autre question aussi. Je dis, parce que il y a beaucoup de migrants et immigrés qui viennent en France, et pour les nourrir, ces immigrés, est-ce que tu as d'autres sous-revenus ou d'autres soutiens ou des collectifs qui te soutiennent par rapport à l'alimentation ou à l'hébergement de ces immigrés?
Donc, y a Médecins du Monde qui s'occupe des soins à la maison. Et tout ce qui est nourriture, on travaille beaucoup avec les Emmaüs, donc de Nice, de Antibes, de Marseille, de Toulon, et qui nous amènent des camions entiers de nourriture. Et après, on achète aussi avec surtout le frais, les légumes, les fruits, avec l'argent qu'on nous donne, ouais. Et on a beaucoup de soutien. Et qu'on a passé, qu'on est un peu limite, on fait des appels via Facebook, etc., les réseaux sociaux. Et on nous emmène tout ça assez rapidement. Ouais. Donc ça marche plutôt bien. Ouais. Les gens sont assez solidaires.
Oh, merci alors. Merci.
D'accord. Merci à toi.
Donc, notre ami, c'était une première donc, pour toi.
C'est ça? Oui, c'est une première pour
donc,
moi.
Donc, un peu intimidé. Tiens, j'en profite parce que dans le public, il y a une personne que je connais qui s'appelle Marie-Laure Herrada. Salut. Donc, qui a vu ton documentaire, enfin le documentaire qui t'est consacré et qui visiblement l'a apprécié et en tout cas a été touchée par ton action. Donc c'est important, ça veut dire que malgré tout, et la preuve, hier soir, donc, il y avait énormément de monde chez nos amis de l'American Cosmographe, ils ont été obligés de refuser du monde, ce soir c'est pareil, Utopia, donc on ne peut pas dire que tous les citoyens sont insensibles à la cause et tous veulent que barrer les frontières et faire en sorte que les réfugiés restent, s'en aillent ailleurs, bien que... Au niveau politique, c'est totalement différent. Et il ne faut pas s'étonner, malheureusement, des résultats aussi tout récents qui ont eu lieu en Italie.
J'ajoute juste, ce n'était pas donné quand même. Quand on se rappelle un peu, au début, moi, j'ai souvenir de chartes municipales sur votées à l'initiative du Front National. À l'époque du Front National, dans lequel il y a eu une première réaction comme ça, je parle il y a 2-3 ans, dans lequel, en gros, il s'agissait de dire, voilà, on nous a refait le coup de la misère du monde, du bateau et tout ça, et où, pendant un temps, on s'est cherché un peu dans le pays, il s'est agi d'arriver... Alors, moi, ce que je peux dire, c'est qu'on voit... Il s'est agi de donner de la visibilité à des actions qui étaient les actions qui se faisaient souvent de manière assez spontanée, mais tu le disais tout à l'heure, avec des gens qui étaient des gens qui... qui d'abord n'était pas trop au courant du droit des étrangers, qui est un des droits les plus compliqués au passage. Quand même, il faut savoir que c'est un truc un peu complexe, et qui ont réagi spontanément. Des individuels, des municipalités, j'irai pas dire jusqu'à des conseils départementaux, voilà. Et puis, petit à petit, ces gens-là ont appris, ils ont eu de la visibilité, et moi, je peux dire, au bout de 2 ou 3 ans comme ça, c'est quand même un sacré combat gagné auprès de l'opinion publique. On était quelques-uns à se dire, quand même, il y a eu un moment qui était un moment comme ça, où on se disait, quand même, est-ce que les citoyennes et les citoyens vont réagir, ce qui a été le cas, voilà. Et il se passe quand même des choses qui sont des choses assez fantastiques. Alors, ce que tu fais, ce que font, encore une fois, des tas de gens un petit peu disséminés partout. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut s'appuyer, effectivement, pour résister, quoi. Et au-delà de résister, peser sur les décisions qui sont les décisions politiques, parce que, encore une fois, elles sont devant nous. Voilà. Je voulais juste dire ça.
Puis Cédric. On nous fait croire, en fait, que la France est raciste, que la France souhaiterait retourner ces fameux bateaux qui sont refusés par l'Italie. Que la France voudrait, enfin la France, quand je dis la France, c'est les Français, hein, c'est pas. Voilà. Que les Français voudraient le retourner en Libye, c'est pas vrai, quoi. Je veux dire, c'est complètement fou, en fait. C'est des informations qui choquent, qui sont là et qui se vendent à la télévision, quoi. Mais le média est devenu un business, la politique est devenue un business, il faut faire attention, pas écouter tout ce qu'on dit non plus, quoi. Et je suis convaincu que la lutte contre le racisme n'appartient pas à la gauche, quoi. Elle y appartient aussi à des gens de droite. Une personne humaine normalement constituée psychologiquement ne veut pas souhaiter la mort d'autres personnes. Je veux dire, ou alors l'autre, c'est un danger, quoi.
Oui.
Et voilà.
Mais c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que ce qui se passe souvent, et nous, on l'a vu, hein, c'est que quand les gens rencontrent humainement, quelles des personnes sont, elles existent, hein, qu'on les voit, qu'on parle avec elles, hein, le rapport qu'il peut y avoir est complètement différent. Nous, on l'a vu avec les parents, les parents d'enfants scolarisés sans papier, hein, enfin, les familles sans papier d'enfants scolarisés en France, via RESF et tout ça. On a vu des gens se mobiliser, c'était assez surprenant. On ne s'attendait pas du tout, hein, à ce que ce n'était pas des profils qui étaient des profils militants traditionnels. Mais ils se rendaient compte que cette famille sans papier, c'était ceux qui côtoyaient à la sortie de l'école, au moment où on allait récupérer les gamins. Voilà, ils discutaient le coup avec eux. Et ça leur était parfaitement insupportable. Voilà, hein. Alors que je pense que le rapport qu'ils avaient effectivement avec ces gens-là, c'était le fantasme effectivement de l'envahissement, aujourd'hui y compris les gestes de terrorisme et des trucs comme ça. Mais quand ça se passe dans le réel, c'est pour ça qu'à un moment donné, on avait fait des photos même. Hein, on avait fait des photos pour montrer les gens, pour que les gens aient une... Hein, les sans-papiers, à l'époque c'était les sans-papiers... Hein, ce soit des, comme on disait à Canal+, ce soit des vrais gens, parce que c'est pas le réfugié, parce que le réfugié elle attaque pas mal de personnes, c'est un truc abstrait, menaçant, voilà, hein, et de ce point de vue là il y a un matraquage idéologique qui alors entre la bien-pensance et ce truc là c'est vrai qu'il s'agit de construire des places ou des positions, voilà.
Et puis que, enfin, il y a quand même des super réussites, quoi. Ouais. Et c'est assez exemplaire. Je veux dire, voilà. Moi, j'ai retrouvé hier un jeune là que j'avais croisé à Vintimille, un Soudanais, et il parlait pas français. Là, maintenant, c'était en fin 2016, donc que j'ai croisé à Vintimille. Et maintenant, il a un travail, il a ses papiers, il a un permis de conduire, il a une voiture, il parle français parfaitement, il investit dans des associations. Franchement, il est exemplaire, quoi. Mais vraiment, c'est même pour les Français, quoi. C'est que le gars, il est top, quoi. Et quand j'entends Macron dire « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde », Moi, j'ai un peu du mal, quoi, parce que quand je vois des dans le film, il y a un moment, il y a un témoignage de Abou qui est passé aussi l'année dernière, l'été dernier à la maison. Il a monté les marches du Festival de Cannes avec nous. Il parle parfaitement français maintenant. Le gamin, il parle cette langue.
Ça va très vite.
Et il y a un moment où, non, ce n'est pas toute la misère du monde. C'est faux, c'est faux. Et de dire que la migration, forcément, c'est toute la misère du monde, c'est m'insulter moi-même parce que mon arrière-grand-mère a fui l'Italie. Ma grand-mère a fui l'Allemagne parce qu'elle avait des problèmes avec les nazis, etc. Et en moment de dire, tiens, la migration, les gens qui viennent ailleurs de France, c'est toute la misère du monde, non, quoi. Non, oui, ça n'est pas vrai, quoi.
Mais il y a une y compris quand on s'y travaille sur aujourd'hui, la réalité documentée, vérifiée de ce que c'est que, par exemple, ce que sont les réfugiés, ce ne sont pas des gens qui sont des gens incompétents, sans diplôme, sans capacité, etc., etc. Ça, cette espèce de représentation qu'on en a. Et ce ne sont pas des gens qui... tous les gens qui sont dans cette situation-là mesurent que, y compris le trajet migratoire dans la violence qu'il représente et la nécessité de résilience qu'il nécessite aussi pour que ça fonctionne. Je veux dire, venir aujourd'hui en France et arriver sur le territoire national, c'est un sacré parcours, quoi. Je veux dire, c'est des gens qui sont, je veux dire, qui ont des compétences aussi. Hein.
Et une envie.
Et il y a un désir derrière qui fait que c'est pour ça que je dis ça va vite, ça va très vite, parce que c'est, je veux dire, ces gens bouffent la vie aussi à belles dents, voilà. Et dernier élément peut-être aussi pour déconstruire leur représentation. Nous sommes un pays d'émigration, c'est-à-dire que nous sommes un pays dans lequel les Français vont à l'étranger. Et ça, c'est un truc qui est jamais assez dit, plein de jeunes vont à l'étranger, des jeunes Français, ou des Français qui ne sont pas jeunes d'ailleurs, hein, et nous sommes nous-mêmes, d'une certaine manière, des migrants, et cette circulation, c'est une circulation qui est quelque chose qui fait partie de notre histoire, qui est entre guillemets naturelle. Voilà. Alors qu'on est dans le fantasme, là, le fantasme de la vague, du tsunami, du truc qui nous boufferait. C'est pas vrai.
Non, et puis, mais surtout, c'est humainement, quoi. C'est que, enfin, moi, les gamins qui sont à la maison, ils sont ultra motivés, quoi. Et d'entendre un gamin de 15 ans, il dit Cédric, je vais à l'école, Cédric, je vais à l'école, Cédric, je vais apprendre, et super motivé, enfin, prenons-le, quoi. À quoi ça sert de casser ses jambes pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans point de vue administratif, de laisser dormir à la rue? Et on sait très bien, on connaît tous ce que fait la rue, quoi. Les séquelles que fait la rue, on voit, enfin. Enfin, qu'est-ce qu'on est en train de construire? On a des jeunes. Moi, ce qui m'a choqué à un moment, c'est que j'ai retrouvé des jeunes qui étaient passés chez moi 2 ans avant et je les ai retrouvés à la rue à Porte de la Chapelle à Paris. Donc, en mode SDF, voilà, à moitié alcoolo, dépressif, dans un état sanitaire déplorable. Et ils se sont fait casser par la France, quoi. Et de voir des gamins qui ont réussi à traverser des mers, déserts, dictatures, machin, et qui arrivent chez moi, qui ont la patate et des envies, et de les retrouver 2 ans après complètement cassés, tu te dis, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes cassés là pendant 40 ans après, quoi? Enfin, c'est contre-productif, quoi. C'est pour ça que ce serait bien que l'État et les élus reprennent leurs responsabilités, parce que le pouvoir emmène au devoir et qu'ils prennent leurs responsabilités, ou alors ils se cassent, quoi. Ou alors ils nous laissent faire, mais ils nous laissent un peu tranquille faire, ils nous donnent les moyens de faire. Il y a des associatifs qui font du très bon boulot, ils devraient un peu s'inspirer des associatifs et de regarder un peu le travail qui est fait et le résultat du travail qui est fait, et de s'inspirer de tout ça au lieu de dire oui, non, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, remettons-le en Libye. Mais les gars, là, à un moment, comment on gère la situation concrètement, à part vos slogans de droite extrême?
Et le milieu associatif, effectivement, en France est très fort, et en Occitanie en particulier, et malheureusement pas forcément toujours très reconnu. Et s'il n'y avait pas autant de bénévoles en France, ben, ça irait sans doute beaucoup moins bien. Et c'est pour cela que nos chers élus de La République En Marche ont su créer un certain nombre de contrats aidés, par exemple.
Oui, sans les remplacer pour que ce soit en termes de subvention, par ailleurs. C'est, je veux dire, à la limite, on peut concevoir...
Ah, mais non, mais... il fallait financer l'ISF, enfin, la suppression, en tous les cas, de l'impôt sur la fortune, par exemple. Non, c'est quand même... Alors qu'il dit qu'en France, il n'y a pas les moyens d'accueillir tout ça, et pourtant, c'est les plus riches qui s'enrichissent toujours plus, et on met de plus en plus de gens à la marge. C'est quand même un phénomène où finalement que de plus en plus de personnes soient dépendantes d'un système social et en même temps les montrer du doigt pour les marginaliser encore plus. Oui, donc il n'y a pas que forcément, ce sont aussi en quelque sorte des réfugiés, si nous allons parler. Non ?
Oui, oui, bien sûr. Oui, le fait, y compris d'ailleurs l'État, et par rapport à ce que dit Cédric, l'État, enfin, que je dis l'État, c'est les pouvoirs publics, on va dire, hein, c'est l'État démembré, y compris les conseils départementaux au niveau de l'aide sociale à l'enfance, je pense aux mineurs, hein, qui démontrent même leur incapacité à pouvoir gérer cette question-là. Et qui sont dans l'incapacité, par ailleurs, d'articuler les moyens qu'ils peuvent avoir avec la capacité que peuvent avoir les citoyennes et les citoyens à réagir. Hein, voilà, on met les jeunes dans des établissements, on essaye de les faire passer pour des majeurs au prix d'acrobaties, de radio du poignet, etc., etc. Parce que, je sais pas si, faut savoir que, quand on est majeur en France, il y a quand même un principe fondamental qui est que les mineurs doivent être protégés, voilà. C'est un droit fondamental international, on ne revient pas là-dessus. Donc, il suffit, la plaisanterie, sinistre consiste à essayer de démontrer qu'il est majeur. Le jeune, et même s'il est mineur, c'est très compliqué aujourd'hui, moi je sais, dans les maisons d'enfants à caractère social, qui sont les structures qui les accueillent, de pouvoir... Alors, on retrouve par contre ce qui a été dit, c'est-à-dire que ce sont des jeunes extrêmement dynamiques, tous les travailleurs sociaux qui travaillent avec disent... C'est une fonction de régulation dans l'établissement d'avoir des mineurs isolés étrangers, fait non accompagnés, comme on dit, parce qu'effectivement, il y a cette espèce de volonté de s'intégrer, avec un truc terrible quand on travaille avec les travailleurs sociaux, avec le fait de se dire oui, mais à 18 ans, on peut lui demander de faire les valises et de repartir. C'est absolument et on fabrique des établissements dans lesquels c'est très difficile de travailler, alors que on pourrait imaginer effectivement un accueil qui est un accueil beaucoup plus diffus avec des citoyennes et citoyens, sans forcément effectivement soit qu'on vienne les emmerder, soit qu'on vienne en permanence faire peser sur des jeunes ce truc qui fait qu'à un moment donné, c'est impossible. C'est impossible quand on sait qu'à 19 ans, à 18 ans moins un jour, on peut fracasser complètement le parcours qui est le parcours de vie.
Et puis on voit qu'il y a une volonté aussi de ne pas éduquer la jeunesse, quoi. Et au moment, quand ils sont là, ils disent « Oui, mais on a que 150 places, on ne peut pas en prendre 155 ou 200. » Je dis « À un moment, il y a des lois, que vous en avez 150 ou ça ne nous regarde pas. » C'est juste votre obligation. Il y a une obligation de prise en charge éducative. Oui, éducative. Et à quoi ça sert l'éducation ? À un moment, c'est un investissement. C'est un investissement de se dire « Il y a une jeunesse qu'on forme, qu'on éduque, pour que cette jeunesse ne soit pas l'objet de troubles d'ordre public dans le futur. » L'éducation, ça sert en fait à construire la société de demain. L'école a été rendue obligatoire parce que on sait que des gens qui ne sont pas éduqués, ça endommage une société, quoi. Et oui, d'éduquer des enfants, on n'éduque pas l'individu, on éduque la société et on le fait pour la société, non pas pour l'individu, quoi. Donc une personne, qu'elle soit africaine ou qu'elle soit noire, qu'elle soit blanche, etc., il y a une obligation en fait d'éduquer les gens.
Ça s'appelle le droit fondamental.
Voilà. Et ouais, non, mais c'est fou parce qu'on repart sur des bases, c'est quand même assez fou, quoi. C'est cyclique, on repart à zéro, quoi, on y va.
Et comment donc tu parcours une partie, en tous les cas, de notre territoire national? Comment se passent les rencontres, par exemple celle d'hier soir? Comment ça s'est passé chez nos amis de l'Amérique? Quand Cosmographe.
Le film, j'ai l'impression qu'il a bien été reçu et j'ai l'impression qu'il fait du bien aux gens qui sont militants et bénévoles et puis ça fédère aussi, quoi. Il y a des ça reste 170 personnes dans une ville comme Toulouse, c'est déjà ça, quoi. Si déjà on arrive à fédérer quelques personnes, quelques dizaines de personnes, quelques centaines de personnes dans chaque ville, et c'est bien, quoi. Et surtout, on en parle et on a un débat là-dessus, et de montrer en fait que la société a envie d'en débattre. Il y a une problématique, nous, on a envie d'en parler, on a envie d'y travailler, on a envie d'y réfléchir. Et ce serait bien que nos politiques fassent un peu ce qu'on a envie de faire aussi. Enfin, au moins de débattre et trouver des solutions. Quoi.
Et si, puisque Jean-François a parlé tout à l'heure des européennes qui se profilent là, dans quelques mois, si un parti politique engagé, donc pas le Rassemblement national bien sûr, te proposer de venir sur une liste pour défendre justement ce que tu fais et démontrer ce que tu fais sur le terrain, est-ce que comment tu réagirais? Tu as peut-être eu des propositions d'ailleurs.
Non, mais les gens ils ont un peu peur de moi quoi. Je suis un peu trop anarch quoi. J'ai une idéologie d'anarchiste. Et je sais très bien que notre société n'est pas intelligente pour la vivre, mais moi j'ai envie de respecter mon utopie. Donc non, je fais de la politique concitoyenne, quoi. Et voilà, je fais un peu ce que je peux à ma manière, et je crois que ça me convient beaucoup mieux que voilà.
L'utopie, c'est ce qui n'est pas encore réalisé, mais ce sont toujours les utopistes qui ont fait avancer le monde, et jamais ceux qui se basent sur une réalité, surtout financière.
Ouais, mais j'ai pas l'impression que l'espèce humaine soit capable de gérer l'anarchie avec intelligence. Malheureusement.
D'accord. Mais l'espèce humaine, en tous les cas, la femme, l'homme, que sais-je, pourrait se poser un certain nombre de questions, notamment aussi par rapport à ce qui se passe au niveau des événements climatiques. Parce que là aussi, on a l'impression qu'un certain nombre, en tous les cas, de dirigeants mettent une feuille dessus, le papier, pour ne pas regarder tout ce qui se passe. Et pourtant, c'est aussi une des réalités. Et comme j'en ai parlé tout à l'heure, nous aurons de plus en plus, et peut-être qu'effectivement, comme le disait Jean-François Mignard, nous serons peut-être demain des réfugiés aussi climatiques.
Ouais, ou politiques.
Politique aussi. La menace aussi pèse malheureusement chez nous par le biais de certaines politiques, et notre président est appelé le président des riches, il s'en défend, et pourtant.
C'est pour ça que je suis rentré chez un pays d'asile, mais j'ai pensé au Pays Basque, donc je vais y aller demain, on va voir s'ils acceptent.
C'est un pays tempéré, c'est déjà pas mal. Moi, je voulais poser une question à notre jeune journaliste, apprenti journaliste. Tu voudrais faire quoi plus tard?
Et moi, j'ai un autre objectif. Je joue aussi au football, j'aime le football. Et en même temps aussi, je fais c'est ma première fois de faire du journalisme ici en France. Et donc, pourquoi pas aussi tenter de faire le journalisme.
Ouais. Il y a combien de temps que tu es en France?
Il y a 3 mois à peu près.
Il y a 3 mois.
Oui.
Tu peux en dire quelque chose des 3 mois que tu viens de passer en France?
Oui, les 3 mois que j'ai passés, je trouve j'ai eu un peu des avantages.
Et des inconvénients?
Oui, des inconvénients aussi, mais ça va.
Ouais. Il y a des choses fortes que tu pourrais dire sur les 3 mois que tu viens de passer?
Oui, il y a des choses fortes que je peux dire, seulement ma vie actuelle, je ne vis pas comme il faut, comme un mineur. Donc moi, je vis actuellement dans un squat et mes conditions ne sont pas remplies. Et seulement avec le courage, je m'en sors.
D'accord.
Et donc, tu as été accueilli, donc on peut dire, au niveau professionnel, même si c'est en tant que bénévole, à Radio Occitania. Ça, comment ça s'est passé? C'est avec Guy Mimard, je suppose?
Oui, c'est avec M. Guy. Là-bas, il m'a proposé de venir faire du journalisme là-bas. Et j'ai accepté. Je dis d'accord, je vais venir. Et en même temps, pour prendre encore plus d'expérience. Et donc, c'est pourquoi je fais du journalisme là-bas.
D'accord. Et quand tu es arrivé en France, est-ce que tu parlais un peu le français ou pas du tout?
Oui, je parlais du français parce que depuis au pays, parce que moi je viens de la Guinée, qu'on a créé là-bas, notre langue nationale est la langue française. Donc depuis là-bas, je parlais du français ici. Je parle du français aussi. Et ça n'a pas été pour moi Et même si les accents ne sont pas pareils.
Ouais, c'est normal, hein, mais nous avons un accent aussi.
Oui, les accents ne sont pas pareils, mais quand même, je m'en sors bien.
D'accord. Merci pour ces précisions. Cédric, allez, avant de clôturer l'émission, un mot, qu'est-ce que tu as envie de dire encore aux auditrices et aux auditeurs d'Esprit Occitanie ?
Ben, qu'est-ce que j'ai envie de dire, c'est que vivre, c'est lutter. Lutter, c'est vivre. Ça fait du bien. C'est pas un don de soi. Ça fait du bien. C'est enrichissant. Ça fait plaisir. À la maison, on ne fait pas que pleurer. On rigole. On s'amuse. On fait la fête. Et j'ai pendant longtemps vécu seul. Et maintenant, je vis. On est voilà entre 20, 30, 40, 50 à la maison. Et c'est très agréable, vraiment. Même si des fois c'est compliqué, mais au moins on se sent vivant, quoi. Et des fois on pleure, bah, parce que des fois ça fait mal. Et puis du coup, on se sent vraiment en vie, quoi. Et d'aider les gens, s'aide soi-même, et ça fait vraiment du bien. C'est pour ça que j'invite les personnes à leur tour à donner un coup de main, mais pas forcément avec les migrants, quoi. Je veux dire bonjour, regarder un peu en face la misère qui nous entoure. De dire bonjour à la SDF qui est à côté, de discuter deux minutes avec lui, aller boire un café, lui proposer de passer, faire une douche à la maison, ou des petits détails comme ça, aller même commencer par 10 minutes par mois, c'est rien. Essayez, vous allez voir, ça fait du bien, quoi. Et on arrive à 10 minutes par mois, on arrive vite à 10 minutes par jour. Et on voit que ça devient un moteur dans la vie, en fait. Et que ça... On a souvent recherché la contrepartie, pour l'aide de personnes en situation irrégulière, pour les incriminer. Mais la contrepartie, ils n'auront jamais celle-là, quoi, parce qu'elle est basée sur le partage, sur l'amour, sur des choses basiques, simples, qui ne sont plus à la mode, malheureusement, mais c'est des choses qui font vivre et qui font vibrer, qui font danser. Voilà, moi, j'invite tout le monde à partager autour de soi.
Merci Cédric Héroux d'avoir participé donc à une émission spéciale de traversée sur Esprit Occitanie. Et donc tout à l'heure, tu seras chez nos amis de l'Utopia à Tournefeuille. Et bien, au plaisir de te retrouver en terre occitane, terre de résistance. Merci Jean-François aussi d'être venu et de m'avoir accompagné dans cette émission. Merci, j'avais cassé le matériel. À Dorian Gilman et Valentin Sirugue qui étaient là pour la réalisation technique. Et je vous donne rendez-vous dès vendredi matin pour traverser entre 10h et midi. Bye bye, à très vite.
Allez, merci, salut. Thank you.